Bonsoir à toutes et à tous, c'est dimanche, c'est l'heure du Grand Fauve. À l'affiche ce soir, le tennis en littérature. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Dites donc, ça doit être formidable de sentir quelqu'un d'important.
Un joueur de tennis n'est pas quelqu'un d'important.
Oh, s'il a réussi, il est quelqu'un d'important. Tenez, moi je ne ferai jamais rien dans la vie. Je suppose que vous allez à Baltimore pour les doubles.
Vous êtes un enragé du tennis.
J'aimerais bien être là pour vous voir jouer. Mais il faut que je sois de retour à Washington demain.
L'inconnu du Nord Express, chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, film sorti en 1951 avec un scénario de Raymond Chandler, romancier américain, scénario adapté d'un roman de Patricia Highsmith où il n'était nullement question de tennis. Ce fut l'idée de Chandler qui fut employé d'un fabricant de raquettes à Los Angeles au mi-temps des années 20 et qui fut fasciné par ce sport bourgeois où, tout comme en littérature, la question du style est cruciale. Au programme ce soir, donc, deux invités pour ausculter les liens qui unissent le tennis et la littérature. Tout d'abord, Benoît Emmermann, journaliste, écrivain. Il préside l'Association des écrivains sportifs et grand amateur de tennis. Benoît, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à toi. Et puis à ses côtés, un jeune romancier, 28 ans, auteur d'un excellent premier roman où Marius, 17 ans, est un peu perdu entre son adolescence et les tournois de tennis. Thomas André, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Merci. Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minanzio ce soir, les 75 ans de l'équipe. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, tennis et littérature, la raquette et la plume.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, cette semaine, en levée de rideau, on débute avec une archive de 1983. C'est le week-end de la Toussaint et Bernard Pivot a traversé l'Atlantique pour rendre visite à Alexandre Solzhenitsyn, écrivain russe qui s'est installé à Cavendish, dans le Vermont, au nord-est des États-Unis. Et là, à la surprise du pape de la littérature à la télévision française, il va être question de tennis avec l'auteur de L'archipel du Goulag. Le prix Nobel de littérature, en effet, joue de la raquette.
Pouvais-je imaginer en arrivant à Cavendish que je verrais l'auteur de L'archipel du Goulag, prix Nobel de littérature, en short avec une raquette de tennis dans les mains? Ce court de tennis, Solzhenitsyn l'a fait construire dans sa propriété. Le sol est recouvert d'un fin gravier trop mou sur lequel les balles rebondissent mal. Peu importe. Ce sont les gestes du tennis qui séduisent Solzhenitsyn et la liberté d'y jouer plus que la compétition. Il n'a pas l'intention de s'inscrire à Flushing Meadow.
Vous savez,
quand j'étais enfant, j'ai rêvé de jouer au tennis. Mais toute ma vie s'est déroulée de cette façon. D'abord, je n'ai jamais eu d'argent pour acheter une raquette.
Et puis,
dans les conditions soviétiques, il était très difficile d'avoir accès aux cours de tennis.
Et
puis ensuite, c'était la guerre, la prison, les camps.
Jamais,
jamais je n'ai pu jouer au tennis.
Et quand j'ai eu 57
ans, j'ai pu me faire un cours de tennis. Tous ces 7 ans, j'ai réussi à jouer et ça me donne vraiment un sentiment de bien-être.
Après Solzhenitsyn et la balle jaune, que lit-on sur le tennis sous la plume des écrivains? Voici l'histoire du dimanche soir. Avant qu'il ne meure du sida, en 1992, il s'est autoproclamé le cinéphis. Serge Danet, venu au monde le 4 juin 1944, fut élevé par le cinéma, au sens d'une élévation. Le cinéphis, critique hors pair pour le quotidien Libération, journaliste au style purement littéraire, répétait souvent qu'il avait grandi en cinéma, comme on dit « j'ai grandi en France ». Le cinéma, pays imaginaire et merveilleux où Serge Danet s'était inventé des mondes à lui. Mais son âme foraine ne s'encombrait jamais d'aucune frontière et il lui est souvent arrivé de passer du temps en tennis, autre contrée chère à son cœur.
Moi, dans ma vie, j'ai fait qu'un peu de tennis et un peu de vélo. Et je ne suis pas du tout un sportif. Et je repense un peu avec émotion et tristesse. On était deux ou trois, les copains au lycée. Il fallait vraiment qu'on aime ça, et qu'on aime ça d'un amour fou. Être sur un court, avoir une raquette et courir sur le court. Parce que tout était fait contre nous. Là, c'est un truc, je dirais, un peu de classe. On a oublié la violence avec laquelle un sport comme le tennis, qui était connoté intégralement bourgeois, était interdit, mais interdit, aux gosses du peuple. Et nous, on s'est un peu arc-bouté. On allait boulevard Davout, je m'en rappelle. Hein, c'est une sorte de square municipal qui est sur le boulevard Davout même. Notre problème, c'était de ne pas se faire jeter par le type qui gardait le square, qui était aussi haineux à notre égard et aussi monstrueux que n'importe quel pion de lycée. Mais qu'est-ce qu'on a aimé ça pour faire ça ? Le plaisir, non, c'est au-delà du plaisir, la jouissance d'être sur un court et de courir sur un court avec des lignes, mais déjà du champ et du hors-champ, de l'autre et de l'un. Moi, je pense que c'est une structure cinéma et que beaucoup plus tard dans ma vie, grâce à Libération, j'ai retrouvé intact une capacité de parler du tennis, pas parce que j'en avais fait beaucoup, mais assez pour ne jamais oublier ce que c'était que cette jouissance du tennis.
Benoît Emmermann, vous êtes écrivain, vous avez bien connu Serge Danet, vous avez couvert ensemble plusieurs tournois de tennis. Pour commencer, Benoît, qu'est-ce que la plume et la sensibilité de Danet ont apporté au tennis ?
Il l'explique lui-même dans votre archive, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement il venait d'un milieu relativement malaisé, pauvre, mais il a tout de suite été séduit par ce jeu, on va dire métaphoriquement. Il y trouvait une traduction de tout un tas de choses dont il avait entendu parler par ailleurs, en particulier dans le cinéma, et d'ailleurs il y trouvait le même vocabulaire. Moi, il me disait tout le temps, mais regarde, c'est les mêmes prises, c'est les mêmes cadrages, c'est le même champ contre champ, comme il le dit dans l'archive, c'est le même dialogue, c'est la même géométrie, c'est les mêmes interprétations. C'est pas par hasard, par exemple, qu'il avait créé la page rebond à Libération, qui était une page débat, ouverte à tous les débats, mais ce rebond, il l'avait évidemment subtilisé au vocabulaire du tennis. Donc, il a apporté ça, il a apporté une réflexion qui n'existait peut-être peu ou pas, à cette époque, mais il faut pas oublier qu'on est en plein dans les années 80, où le tennis effectivement est regardé par beaucoup plus de monde grâce à la télévision.
Absolument.
Et que beaucoup d'intellectuels s'intéressent au tennis. Godard veut le filmer autrement, Deleuze s'y intéresse, Solers, etc. Et lui, il appartient à cette catégorie-là, sauf qu'il se mettait à la disposition de son lecteur, le lecteur de Libération, qui lui-même n'était pas très habitué au tennis.
Thomas André, vous êtes, vous, l'auteur d'un excellent premier roman qui s'intitule « L'Avantage » chez Tristram. On va y revenir, hein, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 16-17 ans, il s'appelle Marius, il est pris entre ses affres d'adolescent et ses tournois de tennis. Mais pour commencer, j'ai lu dans une interview que vous disiez que Danet avait été pour vous une source d'inspiration, Serge Danet. Vous avez 28 ans, je le rappelle, Thomas André. Pour quelle raison Danet a été une source d'inspiration pour vous ?
Oui, alors quand j'ai commencé à lire, je savais pas du tout qui il était. Je savais pas non plus vraiment qui étaient les joueurs dont il parlait. Connors, Borg, McEnroe, je les connaissais de nom, mais je les avais jamais vus jouer. Et du coup, je les ai découverts à travers sa prose, en fait, à travers ses mots. Et donc, c'est assez naturellement qui m'a fait entrevoir qu'il y avait un pont, en fait, possible entre le style d'écriture qui était le sien et puis le style littéraire, l'écriture. Et il y a notamment un joueur dont il parle, je trouve, très bien, qui est Matt Wielander, que moi, donc, j'ai jamais vu jouer.
De
mais,
fait.
Mais il avait une façon de décrire son jeu qui était moins un jeu qu'une façon de faire déjouer l'adversaire, de lui poser des pièges, qui m'a inspiré. C'est aussi là l'étincelle de mon personnage.
On va y revenir à ce personnage, Marius. Benoît Emmermann, Danet disait aussi que de toutes les surfaces au tennis, celle qu'il préférait était la terre battue parce que, disait-il, elle avait une capacité à créer de la fiction. Qu'est-ce que ça veut dire, Benoît ?
Alors d'abord, je ne sais pas s'il dirait la même chose aujourd'hui.
Ah.
Mais il se trouve qu'à l'époque, effectivement, la terre battue, pour lui, c'est effectivement un territoire où justement il y avait des travelling qui étaient plus longs, des plans séquences qui étaient plus importants, et où on créait des choses un peu surprenantes. C'est pas étonnant qu'il était intéressé par Mats Wielander, comme on vient de le dire, mais aussi par tous les joueurs de slaves ou de l'Est. Il avait une affection terrible pour Messir, ce Slovaque, qui est allé deux fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem, et qui est le dernier finaliste d'un tournoi du Grand Chelem à avoir joué avec une raquette en bois. Et effectivement, cette créativité qui existait sur la terre battue existe peut-être moins aujourd'hui. D'ailleurs, un tournoi qui est gagné 13 fois par le même champion peut se poser des questions justement sur sa réglementation, sur ses règles. C'est-à-dire que le muscle est apparu, la musculation est apparue, c'est-à-dire qu'on a eu un jeu beaucoup plus physique et peut-être moins créatif. Faut pas oublier que Roland Garros, Panatta qui était un service volé, ou Edberg également un joueur de service volé, ont gagné ce tournoi. Aujourd'hui, c'est tout de même beaucoup plus compliqué.
Thomas, André, Serge Danet disaient aussi que s'intéresser au tennis, c'est réfléchir à l'adversité d'un joueur de tennis face aux autres, mais aussi face à lui-même. Et on va commencer à rentrer dans votre roman, c'est un peu ce qui se passe avec Marius. Il s'affronte à lui-même quasiment jusqu'au point de se détester. C'est assez curieux, ça c'est le sport. Est-ce que c'est une spécificité du tennis? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se déteste parfois au tennis?
Oui, je pense que c'est un sport qui est tout particulièrement frustrant, où on rate énormément. Peut-être beaucoup plus que dans les autres sports, donc ça explique sans doute qu'on s'y déteste tout particulièrement.
C'est vrai qu'on voit souvent des joueurs s'enrager contre eux-mêmes, hein, sur un terrain de tennis par exemple.
Oui, et puis c'est un sport où on dit souvent qu'il est important d'enfouir ses émotions, de ne pas les laisser parasiter son jeu. Alors le simple fait de dire que des émotions sont des parasites, je pense que ça, c'est déjà très parlant. Et puis, oui, c'est peut-être particulièrement un sport où on s'affronte à soi-même parce que on y est très seul sur le terrain. Il y a effectivement une forme de violence, mais l'adversaire est quand même hors de portée. Donc, on est peut-être obligé de retourner sa violence sur soi-même.
Benoît Hermann, on va revenir à la littérature. Danet évoquait dans cette archive justement la dimension sociale du tennis, le sport bourgeois. Et c'est vrai qu'en littérature, pendant très longtemps, chez les anciens, chez Nabokov, chez Proust, chez Bassani, dans ce merveilleux roman qui s'intitule Les Jardins des Finzi Contini, roman extraordinaire, on associe beaucoup le tennis à un monde bourgeois. Or, depuis une vingtaine d'années, ça a un peu basculé. Le tennis est devenu plutôt un sport un peu plus populaire en littérature. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la bascule, Benoît Hermann?
C'est sûr que si, historiquement, si on revient en arrière, le tennis est vraiment un sport bourgeois. Sans parler de Proust, évidemment, qui parlait de tennis dans ses livres. Il y avait même un spécialiste de la sémantique qui a calculé le nombre de fois que le nom de tennis apparaît dans La Recherche du Temps Perdu. Il apparaît 13 ou 14 fois, plus que le golf et évidemment plus que le football qui n'apparaît qu'une fois. Mais même à son époque, un grand sportif comme Maupassant, qui adorait l'aviron et tout, n'aimait pas le tennis parce que justement c'était un sport bourgeois. Donc il parlait de l'odieuse raquette. Donc même dans les temps lointains, c'était effectivement un sport très connoté, un petit théâtre comme ça. D'ailleurs, pour prendre le mot de Blondin parlait pas de Roland Garros, il parlait de Roulant Garros, pour bien montrer la munificence des lieux, la classe sociale qui participait à ce petit théâtre, etc. Donc c'est vrai que c'était très très marqué. Et je pense qu'il a changé, évidemment, c'est le professionnalisme, c'est la télévision, c'est effectivement... Il y a Deleuze qui a d'ailleurs dit un mot assez intéressant en disant de Borg comme un Christ qui est un aristocrate et qui va au peuple. Donc c'est là que se passe la bascule. Je pense qu'effectivement des joueurs comme Borg, comme McEnroe, comme Connors, qui ont joué vraiment au sommet du tennis business, ont apporté beaucoup de choses dans la démocratisation du tennis. Et du coup, dans la littérature, ça s'est ressenti. On a eu des tas d'écrivains qui sont intéressés au tennis, comme on s'intéresserait à un autre sport. Et ces dernières années, outre notre invité, on a eu des écrivains qui sont intéressés au tennis. Je pense à Grégory Singal, par exemple, et son revers de mes rêves, ou à Arnaud Bertina, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui va à la rencontre de Federer au musée de Tussauds à Londres. Enfin, c'est assez hilarant. Ou Florent Dabadie, le fils de Jean-Loup Dabadie, qui vient d'écrire lui-même un roman sur le tennis. Enfin, c'est devenu quelque chose de plus courant, de plus normal, de plus... Le tennis fait partie de la vie de tous les jours, alors qu'effectivement, il fut un temps, il était vraiment réservé à une caste très spéciale.
C'est très intéressant, le sport, parce que c'est la question des attitudes du corps. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, alors on revient un peu au problème de style, c'est... les champions qui sont vraiment créateurs. Il y a deux sortes de grands champions qui n'ont pas la même valeur pour moi, les créateurs et les pas créateurs. Les pas créateurs, c'est ceux qui portent un style déjà existant à une puissance inégalée. Je dirais que, par exemple, Lendl, il n'est pas fondamentalement créateur. Et puis, en tennis. Et puis, les grands créateurs, c'est-à-dire, même au niveau, pour parler tout simple, ceux qui inventent de nouveaux coups, qui introduisent de nouvelles tactiques... C'est Borg qui a assuré. Pourquoi ? Parce qu'il a amené le style d'un tennis de masse. Il a fallu qu'il le crée, lui, de bout en bout. Fond de court, liftage, balle haut, c'est le contraire des principes aristocratiques, c'est les principes populaires. Simplement, quel génie il fallait. Parce que Borg, c'est exactement comme le Jésus, comme le Christ. C'est un aristocrate qui va au peuple. Et il y avait McEnroe, qui lui était un pur aristocrate. Une espèce d'aristocrate, moitié égyptien, moitié russe, service égyptien, âme russe, qui lui inventait ses coups, dont il savait que personne ne pourrait le suivre. Ça, c'est l'aristocrate qui ne peut pas être suivi. Alors qui en effet inventait des coups prodigieux, notamment. Il a inventé un coup qui consiste à poser la balle. Très curieux, quoi. Il la frappe même pas, il la pose, quoi. Un autre grand, alors, qui n'a pas la même importance, je crois, c'est Connors, qui lui, alors, on voit bien le principe aristocratique de la balle plate et rasant le filet. Ça, c'est un principe aristocratique très, très curieux. Et frappé en déséquilibre. Jamais il n'a autant de génie que quand il est complètement en déséquilibre. Bon, c'est des coups extrêmement curieux.
Thomas André, venons-en justement à ce premier roman où on croise Marius. C'est un roman écrit à la première personne. Comment vous pouvez nous le présenter, ce Marius ? Est-il bourgeois, par exemple, ce Marius ?
C'est aussi une question qui me posait un petit peu problème parce que si le tennis s'est démocratisé, c'est vrai que je sentais qu'avec lui venait tout un arrière-plan bourgeois duquel j'avais pas nécessairement envie de parler. Alors de fait, le roman se passe malgré tout dans un univers qu'on sent aisé.
Dans le sud de la France, voilà, Marius, il y a des maisons avec des piscines, on est quand même dans un milieu quand même assez aisé, comme vous dites.
Voilà, donc Marius, il est chez des amis qui ont une piscine, mm-hmm. ou ce genre de choses. On parle d'une famille bourgeoise, en effet. Après, il y a dans le livre un certain nombre d'indices. Par exemple, il est dit à un moment que son père fait un métier manuel. Il est dit qu'il est supporter du RC Lens, qui est plutôt un club populaire.
Du nord de la France, oui.
Qui laisserait à penser que Marius n'est pas forcément, lui, d'un milieu bourgeois. Et c'est une explication possible du décalage qu'il a l'air de ressentir vis-à-vis des autres personnages. Mais c'est une clé comme ça parmi d'autres.
Benoît, je sais que vous avez lu ce livre de Thomas André, L'Avantage. Qu'est-ce que le président de l'Association des écrivains sportifs a à en dire ? Dans quelle lignée il s'inscrit, ce Thomas André, Benoît ?
Mais d'abord, c'est un roman formidable, c'est une évidence. On l'a choisi aussi, je suppose que vous l'avez choisi aussi pour ça.
Oui.
Pour ça, pour moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'il oppose véritablement les deux problématiques du tennis. C'est-à-dire que d'une part, vous avez ce sport qui est extrêmement contraint. Moi, ce qui me frappe toujours dans le tennis par rapport à tous les autres jeux de balle, où les joueurs, où les protagonistes sont obligés de se débarrasser de la balle le plus loin possible, en dehors des limites du terrain, pour marquer des buts ou gagner du terrain. En matière de tennis, il faut allier la force, mais il faut contraindre sa balle à rester dans les lignes. Donc, c'est comme on parlait de frustration, c'est extrêmement étonnant comme situation. Et ça donne des caractères de joueurs tout à fait étonnants et des situations tout à fait étonnantes. Et à côté de ça, dans le roman, vous avez ce monde, on va dire, évaporé, un peu éthéré, sans frontières, sans marques, sans etc., qui est la vie de tous les jours de ce garçon, qui, quand, encore une fois, va sur le terrain, il retrouve les lignes, il retrouve la rigueur, et l'opposition de ces deux univers est absolument passionnant.
Thomas, quel type de joueur de tennis est Marius, un joueur sur la défensive? Qu'est-ce que son jeu raconte de lui-même?
Oui, alors c'est un joueur défensif. C'est plutôt un joueur qui tâche de ne pas faire de faute, de pousser son adversaire à la faute à force de remettre la balle dans le terrain. Donc c'est un joueur qui est pénible à jouer, qui est...
Oui, il est pénible, hein. Il est pénible.
C'est un joueur qui est très pénible, ouais, qui est coriace. Oui. Et bien sûr, ce style de jeu dit beaucoup de son caractère, puisque on le voit évoluer sur le court dans le roman, mais on le voit aussi évoluer hors court. Et de la même façon, il s'y montre indolent, il laisse paraître peu d'émotions sur le terrain de tennis comme hors du terrain. Et effectivement, c'était à mon avis un des enjeux du roman, que la façon dont il joue au tennis le décrive et soit même peut-être une espèce d'analyse psychologique de lui-même à laquelle il se refuse, qu'il livre pas directement.
Benoît, pendant les matchs joués par Marius, c'est l'occasion de lire de longs monologues dans la tête du joueur, des monologues intérieurs, et c'est là qu'intervient la puissance de la littérature, Benoît, parce que dans la vraie vie, jamais les joueurs de tennis pensent autant que Marius pendant un match.
Non, mais c'est là tout l'intérêt de la littérature ou du cinéma. C'est-à-dire qu'on se peut, effectivement, le point de vue change. C'est-à-dire que le lecteur se retrouve dans la tête du joueur et finalement joue au tennis avec lui. C'est ça qui est passionnant.
Et oui.
Dans un livre qui s'appelait La ligne droite, qui a eu le grand prix dans les années 50, le fameux roman de Gibault, c'est un coureur de 800 mètres et tout d'un coup on est dans la tête du coureur de 800 mètres et on participe à la compétition avec lui. Donc ça, c'est une chance incroyable que nous offre la littérature, c'est de nous tendre le bras et de nous dire venez voir comment je joue, venez voir comment je réagis aux choses. On parlait de frustration, c'est vrai que c'est, là on a un joueur qui se contient, tout le monde sait que c'est le propre du tennis, c'est de pouvoir contenir ses émotions, que Federer, quand ils ont commencé leur carrière, cassaient beaucoup de raquettes et que leur grandeur finalement c'est d'avoir contenu ces émotions-là. Donc de vivre ça de l'intérieur en tant que lecteur, c'est une chance formidable.
Thomas, quel enjeu littéraire il y avait pour vous à décrire le tennis ?
Ça se joue peut-être effectivement autour de cette notion de contrôle et de maîtrise assez totale de ses émotions et somme toute de la balle qui est celle de Marius, puisque comme on disait tout à l'heure, il fait très peu de fautes. Mais ça me faisait penser aussi que cette maîtrise totale, ce contrôle était un avantage sur le court, mais pouvait aussi être un désavantage dans la vie quotidienne. Et l'écriture du tennis, elle m'a probablement permis de travailler ça, cette espèce de maîtrise que l'écrivain veut avoir sur sa prose. Elle peut aussi finir par jouer des tours, par être problématique. En tout cas, ça, c'est une question que me semble aussi poser le roman.
On va y revenir dans la seconde partie de l'émission sur ces problématiques justement d'écriture de tennis. Le style évidemment, tennis et littérature sont une question de style. On va faire une pause musicale avec une jeune chanteuse française qui monte. Elle s'appelle Pomme. Le titre joué dans le jukebox ce soir sur Inter, Les cours d'eau, les cours avec un S.
Qu'il nous faut, prenons le temps qu'il faut pour laisser passer les cours d'eau.
du Tigre.
Pour l'anecdote, une fois, Serge Danet, avec qui je travaillais, avait amené avec lui Marguerite Duras. Et Marguerite Duras, au bistrot, devant trois cafés, dit « Jean Asfeld, j'aimerais vous faire une demande. » J'ai dit « Laquelle ?» Il me dit « J'aimerais bien faire un portrait de Björn Borg. » Et je lui ai dit « Mais ça va être difficile pour vous parce qu'il ne parle pas. » Alors elle me dit « Comment ça, il ne parle pas ?» J'ai dit « Non, il ne parle pas, il a choisi de ne pas parler. Je pense qu'il d'ailleurs, il n'a pas grand-chose à dire parce que tout ce qu'il dit, il le dit avec sa raquette. »
Philippe Collin, sur France Inter.
Au final, Marguerite Duras publiera en 1987 pour Jean Hatzfeld et Libération une interview de Michel Platini qui demeure encore aujourd'hui une rencontre assez savoureuse entre l'écrivaine et le footballeur. Mais revenons au tennis et découvrons ce que la philosophe Isabelle Queval dit du champion de tennis dans sa solitude, solitude où fut peut-être prisonnier Björn Borg. Isabelle Queval s'appuie sur la pensée de Nietzsche.
Ce qui est très commun entre donc, la manière de penser de Nietzsche et peut-être la définition du champion sportif, c'est effectivement cette solitude qui s'éprouve au travers d'une quête d'absolu et de grandeur. Bon. Avec à la fois toute la positivité de la chose, c'est-à-dire qu'effectivement le tennis c'est une expérience de soi, c'est aussi une expérience de ses puissances et de ses impuissances. Quand on gagne, on est puissant, effectivement, mais on est extrêmement fragile parce que la carrière d'un champion, c'est une petite ligne de crête qui s'avance, bordée de fossés et d'abîmes dans lesquels on peut sans cesse tomber. C'est le point commun, moi, que je pourrais relever entre la manière dont Nietzsche présente la grandeur, l'accès à la grandeur, et cette définition du champion qui est à la fois un idéal dont chacun peut rêver, on le voit bien avec l'engouement qu'il y a pour les champions sportifs, mais un idéal bordé d'abîmes, bordé de fragilité et de possibilités de sombrer.
Bordé d'abîmes. Thomas André, je rappelle que vous venez de publier un premier roman intitulé L'Avantage aux éditions Tristram, où Marius, un jeune joueur de tennis, qui fait écho d'ailleurs aux propos d'Isabelle Queval, comme si le tennis était le sport de la fragilité et de l'incertitude. Marius, Thomas, fait l'expérience de la puissance et de l'impuissance. Ces deux pôles entre lesquels il navigue sans cesse.
Oui, alors bien, la puissance, elle est aussi un peu relative parce que le roman se situe dans un milieu amateur, donc il y a peut-être moins cette solitude fascinante du champion. Mais en tout cas, c'est vrai que pour lui, le court apparaît rapidement comme un espace où il peut s'exprimer, un espace de contrôle. Mais c'est vrai que très rapidement, il vient s'immiscer la possibilité de la faute qui finit toujours par arriver comme une fatalité. Donc
la faute sur le coup, évidemment, la faute de tennis.
Oui, bien sûr. Ouais. ouais. Dans le roman, en tout cas, j'ai l'impression que le court de tennis est un espace plus de puissance. Et puis, c'est plutôt hors du court que le narrateur est un peu ballotté entre des personnages plus forts que lui. Et c'est hors du court qui fait plus l'expérience de l'impuissance, je dirais.
Oui, en fait, c'est aussi un roman sur l'adolescence. Hein. Il a 16-17 ans, Marius. Ça fait aussi écho aux propos d'Isabelle Queval, parce que ce n'est pas une adolescence flamboyante. Il y a des romans, des grands romans de la littérature où l'adolescent est flamboyant. Ici, Marius, il fait aussi l'expérience de la fragilité et du doute et de l'incertitude et de la puissance et de l'impuissance. C'est une adolescence, qui n'est pas flamboyante.
Ouais, c'est vrai que dans la fiction, dans les séries télé, par exemple, les adolescents sont flamboyants. Et c'est vrai que ce que je me disais, c'est quand j'observe autour de moi des adolescents, j'y vois plus un âge de repli, un âge où on a peur de ses émotions, presque une hibernation. J'ai parfois l'impression que les adolescents sont des sortes de forteresses et c'est exactement ce qu'est Marius sur
Absolument.
Le cours, une forteresse. Mmh. C'est ce qui le rend si redoutable à affronter. Mais c'est aussi pour lui un écueil qui va devoir faire sauter tout ça pour exister aussi hors du cours et pour mener une vie d'adulte plus épanouie en réalité.
Benoît Merman, vous êtes écrivain, je le rappelle, et pour faire écho aussi aux propos d'Isabelle Queval, le tennis semble être une sorte de miroir de ses propres faiblesses, parfois sur le court. C'est une matière à littérature extraordinaire, hein, du coup, de pouvoir sonder ses propres faiblesses.
Oui, en fait, un territoire pas tellement exploré par les écrivains. On en a cité pas mal, mais c'est souvent de l'ordre de la citation pendant des années, sauf de manière contemporaine, on a eu pas mal de romans. Mais anciennement, il y en a eu assez peu. Il y a un roman intéressant de Paul Vialard, mais il y en a relativement peu. Et pourtant, c'est une matière à peu près aussi intéressante de manière fictionnelle ou romancière que la boxe, c'est une évidence. Même si moi je rapproche plus le tennis des jeux d'échecs que d'un combat de boxe, mais encore une fois c'est ce côté sur le fil moi qui est passionnant au tennis. Et évidemment la première chose qui vient à l'esprit c'est le fameux film de Woody Allen, Match Point, où effectivement comme cette balle qui hésite sur la bande du filet d'aller d'un côté ou de l'autre, la bague dont il se sépare, l'accusé du crime se sépare à un moment donné, elle rebondit sur une rampe au bord d'une rivière, de la Tamise. Et de quel côté elle va... Le tennis, c'est ça. Et le caractère des tennisman doit composer avec ça, avec ce pile ou face, ce moins que rien qui fait la différence. Et ça, en matière romanesque, c'est très intéressant.
Ce roman de Thomas André a des liens de cousinage avec un autre auteur américain qui s'est suicidé en 2008. Il avait 46 ans. Et il avait écrit sur le tennis. Voici un extrait justement d'une nouvelle signée David Foster Wallace. Un extrait lu par Augustin Trapenard.
Au tennis, deux dons surnaturels compensaient chez moi des dispositions physiques pas très brillantes. Trois, en fait. Primo, je transpirais si abondamment que je restais à peu près aéré par tous les temps. Voilà qui peut sembler un don ambivalent, et on peut pas dire que ma vie sociale de lycéen en ait beaucoup profité, mais ma sudation excessive me permettait de jouer des heures durant, sans jamais flancher, même par les pires jours d'étuve de juillet, pourvu que j'absorbe assez de liquide et de trucs salés entre les matchs. J'avais l'air d'un noyé dès le quatrième. Je mets les crampes, les vomissements et les syncopes, très peu pour moi. Pas comme ces gamins rutilants de Peoria dont l'arrêt ne bougeait pas d'un millimètre, jusqu'au moment où leurs yeux se révulsaient et où il s'étalait face contre le ciment miroitant.
Benoît, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter en quelques mots qui était David Foster Wallace ?
C'est un écrivain surdoué, on va dire. C'est un philosophe. D'ailleurs, c'est marrant, ça m'a toujours fait rire. Il est né dans un village qui s'appelle Philo. Philo, dans l'Illinois.
D'accord.
Donc pour parler de prédestination, il est bien tombé. Non, c'était un surdoué qui a écrit un roman qui s'appelle L'Infini Comédie, qui est un labyrinthe sans nom, qui est assez difficile à lire, et pourtant quand on y pénètre et qu'on se fait happer après, on devient vite un fanatique et un groupie de Foster Wallace. S'il s'est intéressé au tennis, c'est également pour les raisons qu'on vient de citer, pour ce côté cérébral, ce côté pile ou face, etc., qui l'intéressait. Et il a marqué justement cette spécialité de l'écriture et du tennis dans un grand article qu'il avait donné au New York Times en 2008 peut-être, je me souviens plus très bien. En tout cas, ça concernait le jeu de Federer. Et il avait décortiqué le jeu de Federer, ce que d'autres journalistes ou d'autres écrivains auraient pu faire, mais il est allé beaucoup plus loin en se basant sur le fait que Federer réinventait le jeu. Il repoussait les limites et il réinventait le jeu. Je pense que si Foster Wallace avait été contemporain de Bjorn Borg, par exemple, quand Borg est allé à Wimbledon et a réinventé son jeu pour s'adapter à l'herbe, peut-être il aurait écrit la même chose. Mais c'est ce qui, en tout cas, le fascinait dans le tennis, c'est de savoir que des spécialistes de la chose étaient capables de réinventer un nouveau langage pour s'adapter à d'autres circonstances, soit un adversaire, soit un terrain.
Thomas André, j'imagine que vous êtes sensible à cette littérature de David Foster Wallace. Il y a une ironie qu'on a déjà perçue dans cet extrait. Lui, il y a aussi une ironie chez vous, il y a une ironie chez Marius, qui regarde les choses avec beaucoup de distance. Quel sens elle a pour vous, cette ironie ?
Oui, alors David Foster Wallace, c'est sûr, c'est un écrivain tellement magistral qu'on a même du mal à... on se demande comment il fait pour rester à l'intérieur des limites du cours, mais en fait, quand il écrit sur le tennis, il fait toujours tout exploser. Il est excessif et toujours ultra inspiré, alors qu'au contraire, Marius l'est beaucoup moins. Mais en ce qui concerne l'ironie, pour Marius, c'est vrai que c'est une façon, oui, de mettre son adversaire à distance et de l'observer suffisamment bien pour pouvoir ensuite le faire déjouer, pour pouvoir retourner ses propres qualités contre lui. Après, je trouve qu'en parallèle à cette ironie, il a aussi, vis-à-vis de ses adversaires, une espèce d'empathie, où quand il sent qu'il a une emprise sur eux, il y a une espèce de pitié qui vient en lui. Et voilà, il y a ce jeu entre l'ironie et l'empathie, je dirais.
Benoît Maman, le philosophe Christophe Lamour dit du tennis que c'est une expérience du rapport au temps et à l'espace, à savoir celui qui joue en fond de cour est l'homme de l'espace, il observe, il attend, et celui qui monte au filet est l'homme du temps, celui de l'instant propice. Alors est-ce que les romanciers du tennis, Benoît, peuvent rendre cet aspect des choses à travers leur style littéraire? Est-ce qu'on peut faire des comparaisons entre ce jeu de fond de cour et ce jeu « je monte au filet » et des styles littéraires?
Oui, on peut. C'est des fois un peu théorique, mais je sais que cette question, je l'avais posée un jour à Jérôme Charine, spécialiste du tennis de table. Pas du tennis, mais du tennis de table. Il était allé assez loin dans ce... Il a d'ailleurs écrit un merveilleux livre qui s'appelle Ping Pong, où il rentre justement bien en détail sur les différents styles qu'on peut adopter. Et il va assez loin. Il dit que lui, au tennis de table, il avait un style assez vicieux où il coupait ses balles sans arrêt, etc. Et il trouvait que son écriture était tout à fait similaire. Il allait plus loin. Il disait, regardez Johnny Irwin, qui est un spécialiste de la lutte. Regardez ses phrases en berlificoté, etc. Regardez Mingway qui écrit sur la boxe, qui a un style très punchy. Bon, on pourrait continuer bien plus loin, mais c'est un peu théorique. Cela dit, si on reparle de tennis, si on reparle de Proust, on imagine qu'il jouait. C'était un joueur de fond de cour, sûrement.
Sans doute. Tout le monde dans les Inrocs, Gérard Lefort vous a consacré une chronique où il parle évidemment de ce beau roman. Un beau roman de la déception, écrit Lefort. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Est-ce que, effectivement, c'est aussi une initiation à la déception? Est-ce que Marius apprend à savoir ce que c'est que dans la vie d'être déçu?
Ouais, j'ai l'impression que le roman est déceptif parce que finalement, il s'y passe des micro-événements, plein d'événements, mais on ne sait pas exactement ce qu'il raconte.
Benoît, est-ce que vous auriez un mot à ajouter sur cette dimension de la déception? Est-ce que Marius, justement, en tant que joueur de tennis, fait aussi l'apprentissage de la déception?
C'est un roman, effectivement, déceptif, peut-être, si on emploie le terme. Et de ce point de vue-là, on peut peut-être le rapprocher, même si le contexte est très, très différent, des jardins de Finzi Contini, où on a ce monde qui s'écroule, ce monde qui s'évapore. On est dans un contexte, évidemment, de guerre, ça n'a rien à voir, etc. Mais finalement, et là aussi, il se passe pas grand-chose, mais on a tout de même en arrière-plan, on sent un monde qui hésite, un monde qui n'est pas sûr de lui, qui tremble sur ses pattes, etc. Donc en cela, oui. Mais ce qu'on n'a pas souligné aussi avec Thomas, non seulement il pose ce problème-là d'une vie éventuellement décevante, la vie de son héros, mais surtout Thomas sait de quoi il parle. On insistera beaucoup aussi sur le fait que quand il parle de tennis, il parle de tennis. Et c'est chez les jeunes romanciers aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Quand Emmanuel Ruben parle de cyclisme ou de vélo, on sait qu'il est pratiquant. Et là aussi, on a à la fois un écrivain et un pratiquant de tennis. Et donc le mariage des deux ne peut être que fantastique.
Thomas, vous avez joué au tennis. Vous avez été un bon joueur de tennis.
Oui, alors j'ai eu un niveau honorable, mais assez loin de celui qui est évoqué dans le roman.
Et vous jouez encore aujourd'hui?
Oui. J'y prends plus de plaisir que quand j'étais adolescent.
Un plaisir
retrouvé.
Ah non, un plaisir neuf, finalement.
Peut-être, ouais.
Pourquoi c'était difficile, adolescent?
Oui, parce que y a cette tension nerveuse qui est relatée dans le roman, cette peur ou cette honte de perdre qui font qu'on profite moins de ce qui se passe sur le court. Une fois qu'on apprend à relativiser ces choses-là, ça se passe mieux quand même.
Benoît Biermann, pour finir, vous l'avez bien connu, Danet, est-ce que Serge Danet aurait apprécié ce premier roman de Thomas André?
Je ne peux pas me substituer à lui, mais je pense que oui. Ce qui est d'ailleurs intéressant, on va dire la boucle est bouclée, parce que l'amateur de tennis, le livre de Serge Danet, est préfacé par Mathieu Lindon, qui lui-même a écrit un roman intéressant sur le tennis qui s'appelle Champion du Monde, qui avait été publié en 1996. Et Mathieu Lindon a fait la critique, il y a très peu de temps, dans Libération, du roman de Thomas André. Donc on va dire que tout le monde se donne la main et tout le monde convient que c'est un roman tout à fait intéressant.
En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. Je rappelle le titre du premier roman de Thomas André, L'Avantage. C'est disponible aux éditions Tristram. Et vous pouvez aussi vous plonger dans l'excellente, excellente biographie d'Albert Londres, La plume et la plaie. C'est signé Benoît Emmermann aux éditions Paulsen. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci.
goes.
C'était Shame avec son titre Nigel Heater. On poursuit en musique avec la victoire en chantant le rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Et ce soir, il est question de son journal, justement. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors de quoi cause-t-on ce soir ?
Du journal L'Équipe, et qui voilà. Fête aujourd'hui même ses 75 ans. Mm-hmm. Cette publication est régulièrement critiquée parce qu'elle parlerait trop de foot, parce qu'elle critiquerait trop le PSG. Mais enfin, je voulais vous dire ma fierté de travailler pour ce journal qui a notamment inventé les Coupes d'Europe de foot et de basket, la Coupe du monde de ski ou encore le Tour de l'avenir en cyclisme.
Alors rassurez-moi, vous n'allez pas transformer cette chronique en publicité déguisée pour votre journal ?
Non. Bon, avec l'aide de Thierry Clémenceau, du service documentation de L'Équipe, je vais plutôt vous raconter comment ce journal a peu à peu ouvert ses pages au grand nom de la musique.
Allons-y.
Car ceux-ci, pendant longtemps, n'ont pas eu droit de mention dans une publication qui ne traitait que des sportifs. Au point que, jusque dans les années 70, le seul lien unissant L'Équipe à l'industrie musicale restait un hymne au journal enregistré peu après le premier numéro paru, c'était en 1946.
Au réveil le matin, L'Équipe, L'Équipe. Au réveil le matin, L'Équipe nous met en train. Dans le métro, comme au bureau, tous les tupons se mettent à bomber de torse. Au rendez-vous, la petite loulou me saute au cou, je n'y comprends rien du tout. Ça c'est fou, on est joyeux, nous chantons. C'est le sport qui nous transforme. Dans la vie, nous nous sentons en meilleure forme. Car tous les jours au réveil, c'est un excellent principe. Nous suivons les bons conseils de L'Équipe.
L'hymne de L'Équipe en 1946, disons que ça n'a pas très très bien vieilli. Hein,
oui, d'autant que l'interprète de cette chanson n'est autre qu'André Dassary,
aïe,
connu notamment pour avoir chanté pendant l'occupation le titre « Maréchal, nous voilà ».
Eh oui, la chanson qui tâche.
Bon, alors si vous voulez bien, projetons-nous plutôt au milieu des années 70, une période où l'on commence à voir des artistes en vogue en une de L'Équipe, parce qu'ils étaient invités à procéder au tirage au sort des matchs de Coupe de France de foot. C'est dans ce cadre qu'on retrouve en 1974 Nicoletta et Yves Simon réunis sur un même cliché en première page du journal. Mm-hmm. Bon, à cette époque, les univers du sport et de la musique restent malgré tout bien distincts, comme l'illustre un article paru dans L'Équipe en 1976 dénonçant Benoît Misère, un roman autobiographique de Léo Ferré qui qualifiait le football de jeu imbécile.
Alors, à partir de quand L'Équipe va témoigner du rapprochement entre ces deux univers ?
Je dirais à partir du lancement de l'Équipe Magazine en 1980, qui ouvre le champ des possibles d'un point de vue éditorial, et avec la création de rubriques magazine au sein du journal, comme la page Prolongation qui accueille en 1994 une interview du chanteur Jean-Louis Murat qui clame « Je lis l'Équipe tous les matins ». Alors c'est peut-être ce qui a incité la direction du journal, 2 ans plus tard, à faire enregistrer une nouvelle chanson à la gloire de l'Équipe, interprétée cette fois par des journalistes maison. Le titre reprend les paroles de l'hymne de 1946, mais avec un accompagnement techno.
Au réveil le matin, l'Équipe, l'Équipe, au réveil le matin, dans le métro, comme au bureau, tous les Dupont se mettent à fond.
Ah là 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 là, c'est difficilement supportable quand même. Hein.
Bon, je remercie Jérôme Bureau, l'ancien directeur de la rédaction de l'Équipe, de m'avoir transmis cette horreur, ce trésor, pardon. Voilà. Bon, je vous sens un petit peu désarçonné, Philippe.
À peine.
Alors, je vais vite enchaîner avec un autre morceau plus accessible, Platini de Julien Doré, qui est sorti en 2013.
Sur le
confidence, j'adore ce morceau de Julien Doré. Quel est le rapport alors entre cette chanson et la place de la musique dans l'Équipe, Pierre-Étienne ?
Bon, ce titre est révélateur d'une tendance apparue au début des années 2000 qui voit des chanteurs français grand public consacrer des chansons aux champions qu'ils admirent. Donc Julien Doré s'est prêté à l'exercice, tout comme Benjamin Biolay, Vincent Delerme ou Pascal Obispo. Les rappeurs ont ensuite pris le relais en considérant les footballeurs comme une source revendiquée d'inspiration. C'est pourquoi, dans l'Équipe Magazine ou dans le journal, via la rubrique Extra du dimanche, on peut désormais lire régulièrement des entretiens de musiciens qui partagent leur passion pour le sport.
Alors une question me taraude, Pierre-Étienne. Est-ce que pour ses 75 ans, l'Équipe a décidé de publier une nouvelle version de son hymne, hein ? Genre, peut-être sous une forme de rap, pourquoi pas, hein ?
Que Dieu nous en préserve, Philippe.
J'espère bien aussi. En tout cas, on souhaite bon anniversaire à l'Équipe. C'est aujourd'hui même, je crois. C'est le 28 février 1946. 75 ans à l'Équipe aujourd'hui. Allez, à la semaine prochaine, Pierre-Étienne.
À la semaine prochaine.
Salut. Et voilà, cette 25e émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir, bien sûr, par H2M Henri Marc Mutel. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique de Mathias Alléon. Merci à lui. Merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Thierry Dupin pour la programmation des Scuds. Et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur l'application France Inter, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec la vie de Joe Frazier, boxeur afro-américain qui a fait vaciller Mohamed Ali en 71 dans le combat du siècle, le match du siècle. Qui était Joe Frazier dans l'Amérique des années 60 et 70 ? Réponse dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.